L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts, parmi ceux-ci des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans ce contexte que je reçois aujourd'hui Ilona Delouette et Cécile Vasseur. Ilona, Cécile, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler brièvement de vos parcours?
Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Ilona Delouette, je suis chercheuse en économie. J'ai travaillé jusqu'ici sur les mutations de la protection sociale, notamment sous l'angle de la prise en compte de la question de la perte d'autonomie des personnes âgées. Je coordonne avec Cécile Vasseur, qui va se présenter juste après, le projet PATE, Protection sociale de l'alimentation et transition écologique et sociale, qui est un projet qui est financé par la DRES.
Bonjour Florian, moi je suis Cécile Vasseur, j'ai soutenu une thèse l'année dernière, en 2023, sur la mutualité, sur leur rôle dans l'organisation et le financement de la santé en France. Et depuis septembre 2024, du coup, je suis en post-doctorat sur le projet de recherche PATE.
Juste à ajouter qu'on est toutes les deux au Clercé à l'Université de Lille, notre laboratoire d'attache, et que moi je suis maîtresse de conférence à l'IMT Nord-Europe.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos rôles dans le projet PATE, Protection sociale, alimentaire et transition écologique et sociale?
Eh bien, on en a déjà un peu parlé, mais du coup, moi, je coordonne le projet avec Sylvain Vatan, qui n'est pas présent parmi nous, mais qui néanmoins coordonne aussi le projet. Et Cécile a été employée sur ce projet, grâce au financement de la DRES, du coup, en tant que postdoc, donc elle coordonne aussi le projet avec nous.
Alors, si on parlait un petit peu du contexte, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le système agroalimentaire actuel il pose des risques sanitaires et sociaux et comment on pourrait agir sur ces différents piliers pour en faire un levier de santé et de justice sociale?
Merci pour ta question de contexte. Alors, à ces risques sanitaires et sociaux, je me permets d'ajouter aussi un risque écologique, puisque on sait, il y a plusieurs études qui le montrent, que le système agroalimentaire, il est responsable notamment d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a plusieurs rapports hein, qui ont paru sur le sujet. Si je prends le rapport de France Stratégie de 2021, qui recense en fait de nombreuses études, on peut voir que la production dans le secteur agroalimentaire est responsable d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre, auxquelles on peut ajouter tout un nombre ensemble d'autres choses comme des émissions indirectes liées au gaspillage alimentaire, par exemple. Donc ça, c'est pour les risques écologiques. Il y a également des risques sanitaires. Pareil, hein, c'est aussi montré par plusieurs études que l'alimentation est responsable, peut-être à l'origine de maladies chroniques. Elle peut être liée aussi à un certain nombre de décès. Et à cela s'ajoutent également des risques sociaux, puisque, on le sait, hein, les effets sur la santé sont aussi socialement situés, notamment des études qui montrent que l'alimentation des personnes en situation de pauvreté est souvent insuffisante, peu équilibrée. Et on voit aussi beaucoup, en fait, une forte augmentation des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Là, j'ai des chiffres qui ne sont pas récents, mais par exemple, pour 2018, on sait qu'il y a environ 5,5 millions de personnes qui sont concernées par la distribution de denrées alimentaires, notamment un rapport de l'IGAS qui traitait de la question de l'aide alimentaire. Donc voilà pour ce contexte, donc risques écologiques, sanitaires et sociaux qui s'imbriquent, et on voit en fait en parallèle qu'il y a des politiques publiques qui commencent à partir des années 2010 à essayer de prendre en compte ces différentes dimensions. Là où avant, les politiques alimentaires étaient très segmentées, où on a eu d'abord une politique agricole qui s'occupait de la question alimentaire, puis ça a été intégré dans la politique sanitaire et enfin sociale. Et c'est vraiment à partir de 2010 qu'on voit une implication de ces différentes dimensions dans l'action publique.
Alors par rapport au projet PATE, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs principaux du projet et comment il s'articule autour de la notion de PSA, donc de protection sociale alimentaire?
Oui, du coup, à partir de ce contexte, nous, on est des chercheurs et des chercheuses qui sont en fait traversés par ce contexte et on est par ailleurs une équipe de chercheurs et de chercheuses qui travaillait plutôt sur les questions de protection sociale. Et donc, quand on regardait un peu le champ de la, enfin, on ne peut pas qualifier ça encore de champ, mais quand on regardait l'ensemble des dispositifs qui venaient intervenir pour la prise en charge des personnes, pour la prise en charge des personnes en précarité alimentaire, mais aussi pour les sur la prise en charge de repas de manière générale dans le quotidien au travail, par exemple, ou encore au sein de la restauration scolaire, etc. Nous, en regardant avec nos lunettes d'économiste de la protection sociale, on avait l'impression qu'il y avait une forme déjà. Une forme de déjà-là, d'une forme de protection sociale de l'alimentation. Une protection sociale qui regroupait d'un côté des acteurs et des acteurs et des représentations qui pouvaient s'apparenter à un régime complémentaire, c'est-à-dire qu'il y avait en fait au sein des entreprises de la discussion politique autour de l'alimentation, avec des discussions politiques entre des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs, donc vraiment de la démocratie sociale. Avec, si on prend par exemple l'exemple des titres restaurants, ça représente environ 7 à 10 milliards d'euros, avec des subventions publiques très importantes, donc à chaque fois avec une socialisation et des financements publics. Il y avait aussi du côté des régimes complémentaires la mutualité qui met en place de plus en plus d'actions autour de la nourriture, de l'alimentation et plutôt dans un esprit de prévention du risque sanitaire. Puis en face de ça, on avait un régime d'aide sociale avec l'État et l'Union européenne qui financent des dispositifs de réponse à la précarité alimentaire des collectivités territoriales et avec une discussion cette fois-ci moins démocratique sur la question alimentaire. Et en face de ça, nous, on voyait émerger une thématique dans la société, un peu entre les deux, celle de la sécurité sociale de l'alimentation, avec des acteurs et sur le terrain, plusieurs expérimentations qui cherchent en fait à mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, on reviendra un peu sur les détails de celle-ci. Mais donc, du coup, nous, face à ça, on s'est dit, mais en fait, là, on est vraiment face à un régime complémentaire, sans régime de base. On peut bien regarder tout ça à partir des lunettes de la protection sociale de l'alimentation. De la protection sociale, pardon. Ça a un sens pour nous de regarder ça avec nos lunettes. Bon, voilà, à partir de là, on s'est dit, bon, c'est quand même plein d'acteurs, c'est pas un champ qui est défini. On ne parle pas en général de protection sociale de l'alimentation, donc c'est plein d'acteurs qui sont pourtant souvent avec des rapports de force entre eux, des rapports de pouvoir, qui essayent de faire émerger une idée de la protection sociale de l'alimentation plutôt qu'une autre, etc. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, il faut déjà qu'on fasse une forme d'état des lieux de ce champ, si on veut appeler ça un champ, et qu'on regarde comment. L'idée, c'était l'espèce de construire une forme de cartographie des dispositifs et des acteurs sur les territoires. À partir de là, nous, on a aussi répondu à un projet qui cherche en fait à comprendre. Enfin, le projet de l'adresse, l'appel à projet d'adresse, est un projet sur la protection sociale et la protection sociale écologique du 21e siècle. Pardon, c'était comment est-ce qu'on pouvait repenser la protection sociale à l'aune des risques écologiques? Et donc, nous, on se dit, bah voilà, là, il y a vraiment une question écologique à chaque fois qui apparaît, comme Cécile a pu le dire tout à l'heure. Et donc, on va essayer de typologiser, de faire une typologie de ces différents dispositifs en fonction de leur imbrication avec la question écologique. Est-ce qu'il y a vraiment une imbrication écologique entre la question sociale et la question écologique? Et de quelle manière il y a cette imbrication? Donc, ça, c'est le deuxième pan de notre travail. Et le troisième pan de notre travail, c'est d'essayer de tester, en fait, au niveau macroéconomique, les différents scénarios de protection sociale, du coup, cette fois-ci devenue écologique autour de l'alimentation. Donc, de voir quels effets pourrait avoir l'émergence d'un ou d'un, enfin, l'émergence et la généralisation, l'universalisation d'un ou de l'autre des projets de protection sociale écologique de l'alimentation.
Du coup, au niveau de la SSA, selon vous, comment ces projets-là, ils pourraient être conçus pour répondre aux enjeux de justice sociale et écologique? Est-ce que le modèle de cotisation sociale leur permettrait de se différencier des outils existants, comme par exemple les banques alimentaires ou les titres restaurants?
Pour répondre à la question, je propose aussi qu'on revienne sur les trois piliers de la sécurité sociale de l'alimentation, à savoir que là, on va parler notamment du compromis, on va dire, qui existe entre les acteurs et ce qui est en fait affiché par les acteurs dans le débat public, parce qu'en fait, il existe plusieurs représentations et plusieurs dimensions de ce que pourrait être une SSA en fonction des acteurs qui sont dans le collectif. Parce que certains points, certains dispositifs font l'objet de. Ne font pas l'objet de compromis, ils sont encore en discussion au sein du collectif. Alors, le premier pilier, c'est celui de l'universalisation, c'est-à-dire que toutes les personnes ont accès à une prestation de 150 euros par mois. Donc, voilà, c'est tout le monde a accès à cette prestation, à cette allocation universelle, ce qui fait que il se différencie, par exemple, de l'aide alimentaire, qui est plus ciblée sur les personnes en situation de pauvreté, ou par exemple, ça fait aussi que ces acteurs-là se distinguent et se différencient de la mise en place d'un chèque alimentaire, par exemple. D'ailleurs, ils reprennent la citation de une politique pour les personnes pauvres est une pauvre politique. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le conventionnement. Le conventionnement, c'est-à-dire que c'est on conventionne des produits pour lesquels pourrait être utilisée cette allocation, cette prestation de 150 euros. Et ça, en fait, ce conventionnement, il le considère comme un levier d'action pour la transition agroécologique. Donc, c'est par le biais de ce conventionnement que pourrait avoir lieu, enfin, c'est par le biais de ce conventionnement que la sécurité sociale de l'alimentation pourrait être un dispositif qui accompagne la transition agroécologique et donc la transformation du système alimentaire actuel. Donc, c'est une transformation par la demande. Et je laisse Ilona compléter sur la cotisation.
Oui, du coup, le troisième pilier de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de financer tout ça par une cotisation sociale sur le travail, en fait. Alors, ce n'est pas toujours clair si c'est uniquement sur le travail, si c'est sur la valeur ajoutée, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de compromis vraiment là-dessus au sein du collectif. Mais en tout cas, c'est un enjeu très fort, la cotisation sociale. Pas seulement parce que c'est un outil de financement, ce n'est pas une question technique, en fait. Là, c'est vraiment une question démocratique. À partir du moment où on finance par une cotisation sociale, ça donne un droit de gestion sur la sécurité sociale de l'alimentation et en l'occurrence sur les caisses qui vont conventionner par derrière l'offre alimentaire. Et donc du coup, il y a vraiment c'est vraiment central en fait dans la discussion de la sécurité sociale de l'alimentation. Et puis il y a aussi un enjeu la cotisation sociale, c'est un outil anticapitaliste dans le sens où ça prend sur les profits pour démocratiser une partie de la valeur ajoutée. Et il y a aussi cet enjeu-là dans la question de la sécurité sociale de l'alimentation.
Merci à vous. Alors, si on devait parler un petit peu des scénarios de transformation, comment est-ce qu'on pourrait assurer une gouvernance démocratique et inclusive pour des dispositifs comme la SSA?
Alors nous, ce n'est pas vraiment notre entrée, parce qu'il y a énormément de chercheuses notamment qui travaillent sur ce sujet, si on pense à Dominique Paturel, par exemple, et aux recherches qui se font autour d'elle. Ce qui est sûr, c'est que... Au niveau national, il y a une forme d'absence de compromis sur ce que devrait être la sécurité sociale de l'alimentation, comme l'a relevé Cécile déjà, et notamment sur la question de la gouvernance démocratique. Est-ce que, sur un point, c'est est-ce qu'il faut laisser choisir les citoyens de tout ce qu'ils mangent, par exemple? Parfois, on fait des entretiens semi-directifs où on nous explique que les citoyens que les citoyens qui auront droit à une SSA devraient manger uniquement du bio et de l'écologique, mais ça va tout de suite à l'encontre de l'idée démocratique de citoyens qui décident de ce qu'ils mangent, en fait. Donc, il y a toujours cette discussion-là qui est compliquée. Là, il y a une loi d'expérimentation qui va être discutée dans la niche des écologistes la semaine prochaine. Et il y a de nouveau cette question-là, c'est-à-dire que, en fait, vu que c'est pas un financement par cotisation sociale, ça fonde pas une forme de démocratie. Et du coup, on va essayer de mettre des cadres pour dire ce que peuvent manger les gens qui ont le droit à cette sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, ça pose toujours un peu, il y a toujours une question un peu ambiguë autour de ça. Jusqu'où on laisse aller la démocratie? Est-ce que si on laisse aller la démocratie, alors les acteurs de la SSA partent du principe que si on discute, s'il y a une discussion démocratique, on va aller vers une transition écologique. C'est pas nécessairement évident en réalité, et voilà. Et donc c'est une vraie discussion. Enfin, je veux dire, eux ils partent du principe qu'on n'a pas prouvé le contraire, mais nous on part du principe qu'on n'a pas non plus prouvé que ça irait vers un sens de transition écologique. Donc ça se discute. D'autant plus que la question des 150 euros, aujourd'hui, c'est un peu le référentiel pour l'ensemble des expérimentations d'aller vers 150 euros. Ces 150 euros ne suffisent pas toujours à aller vers des produits de qualité en termes de transformation écologique. Et ça ne couvre pas d'ailleurs l'ensemble du panier des Français aujourd'hui. Et ça ne couvre pas non plus. Le problème aussi, c'est que souvent, il n'y a pas l'offre nécessaire en face pour répondre à ces 150 euros aussi. Donc voilà, il y a plein de soucis qui se posent.
Cécile, quel est votre avis sur les effets que pourrait avoir la SSA sur la santé des citoyens?
Donc je prends la continuité de ce qu'a dit Ilona, puisque en fait tout l'enjeu c'est effectivement si on laisse les personnes choisir dans les caisses locales de l'alimentation. On ne sait pas, en fait, si on laisse vraiment la démocratie s'exercer, on ne sait pas ce que les personnes vont choisir de conventionner. Et donc, On ne sait pas si des personnes vont conventionner, c'est toujours visiblement les produits qui sont mis en référence, mais Coca, Nutella, etc. En fait, pourquoi pas, si on laisse les individus faire, pourquoi pas finalement? Et donc, c'est là la question du cadre. Donc, est-ce qu'on doit mettre un cadre national sur ce qui doit être décidé ou non, sur est-ce qu'il faut une charte nationale sur les produits qui doivent être conventionnés? Ça, par exemple, c'est dans le projet de loi d'expérimentation dont a parlé Ilona. En fait, il y a cette idée de mettre une charte nationale pour qu'en fait, orienter et inciter les individus à ne pas choisir librement, en fait, mais à choisir des produits qui sont sains, qui sont bio, etc. Et après, il y a toute une dimension d'éducation populaire dans les expérimentations qui est très forte, où voilà, on fait des ateliers de cuisine, on fait des ateliers pour sensibiliser aussi le fait que, ben oui, on ne mange pas des tomates toute l'année, et on ne produit pas des tomates toute l'année, donc pourquoi pas est-ce qu'on peut aussi ne pas consommer des tomates toute l'année? Voilà. Il y a toute une dimension d'éducation populaire qui est très forte dans les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Mais en fait, aparté, parce que nous, on parle aussi de la PSA, donc de la protection sociale de l'alimentation, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans les expérimentations de chèques alimentaires, où en fait, pareil, la dimension atelier, etc., et d'accompagnement en fait, des personnes est aussi très forte.
Oui, j'ajouterais juste un petit point là-dessus, c'est qu'en effet, dans les expérimentations que pour l'instant on a étudiées, en effet, il y a de l'éducation populaire et donc ça se tourne en fait, une fois que les gens sont au courant en fait et se rendent un travail sur la question et ont aussi les moyens d'aller consommer vers des produits dits écologiques avec des dimensions différentes sur ce qui est écologique, en général, ils se tournent vers celle-ci. Ce que je veux dire par contre au niveau de la question démocratique, c'est que si on ne cadre pas aussi qui intervient dans la décision, on risque d'avoir en l'occurrence là des acteurs qui viennent intervenir dans la discussion et qui n'ont pas intérêt à la transformation écologique nécessairement. Typiquement, qu'est-ce qui empêche que la FNSEA vienne apporter son avis, vienne donner son avis dans ces caisses en fait? Donc en fait, c'est là où la cotisation est intéressante puisque la cotisation, elle dit, c'est ceux qui financent qui gèrent. Si on est dans un financement par l'État, pourquoi est-ce que la politique serait différente de celle de la PAC? Pourquoi est-ce qu'elle s'en servirait pas dans des politiques qui sont déjà celles qui sont en cours, en fait? Voilà la question, comment ces deux questions sont imbriquées et comment elles se rejoignent sur la question démocratique.
Pensez-vous qu'il soit pertinent d'intégrer une approche genrée dans les réflexions sur la protection sociale alimentaire et en quoi cela pourrait-il réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité et améliorer la santé globale des familles, notamment en tenant compte du rôle central des femmes dans cette dynamique?
Alors, on pense en effet que c'est une dimension essentielle quand on traite de la question de l'alimentation, notamment parce que c'est une question qui est largement traitée au sein de la sphère domestique et que c'est les femmes qui préparent à manger en grande majorité, c'est les femmes qui vont faire les courses, c'est les femmes qui se chargent de la reproduction domestique aussi. Voilà, et donc du coup, qui sont qui sont concernées en fait par ces différents dispositifs. Sur la question de la... Alors après, nous, c'est par contre pas vraiment notre entrée dans notre projet de recherche, parce que nous, on se pose des questions, on essaye de comprendre les effets un peu macroéconomiques. Donc on ne différencie pas finalement les ménages selon le genre du chef ou de la chef de ménage. En revanche, on a une partie de notre projet qui n'est pas encore complètement élaborée, mais qui cherche à faire de la micro-simulation, où là, on pourrait essayer de voir si ça a des effets différenciés sur les familles monoparentales, par exemple. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que quand on prend les lunettes de la protection sociale et de la protection sociale écologique, ce n'est pas une question qui est centrale aujourd'hui, ce n'est pas une question vers laquelle les chercheurs et les chercheuses se tournent, peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de chercheurs que de chercheuses. Sur ces questions-là, de manière générale en économie, bref, ça pose tout un tas de questions pour nous-mêmes et dans nos pratiques qui sont à penser, surtout quand on traite de la reproduction domestique. Voilà. Et sur la question de la SSA en tant que telle, il y a quand même. Donc là, si on quitte la question de la protection sociale de l'alimentation et qu'on fait un focus sur la question SSA en tant que telle, à partir du moment où ça permet de consommer des produits de qualité avec un budget élargi, si ça élargit le budget sur les produits de qualité, alors on ne peut que penser que ça améliorera la santé des personnes qui les consomment, femmes ou hommes, en fait.
Vous le savez, donc l'Institut Montparnasse, ça appartient à une très grande mutuelle de santé qui s'appelle la MGEN. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu du rôle des mutuelles pour une santé globale. Alors, quel rôle les mutuelles peuvent-elles jouer dans la protection sociale alimentaire et quelles actions concrètes pourraient-elles mettre en place pour répondre à cet enjeu?
Les mutuelles, elles jouent déjà un rôle dans la protection sociale et alimentaire. Ilona, elle parlait du PSA. paysage du système de protection sociale alimentaire qu'on est en train de définir. Et en fait, elles y ont leur place, hein, elles sont citées, elles sont là. Déjà, donc il y a deux enjeux. D'une part, elles interviennent dans la question de l'alimentation par un axe de prévention. Donc c'est pour notamment en fait diminuer le risque sanitaire, hein, et pour aussi diminuer les dépenses de santé in fine. Donc elles ont cet axe où elles interviennent dans la question alimentaire par la prévention, d'une part, et d'autre part, on voit que les mutuelles, dans leur action sociale, elles participent aussi à des projets territoriaux alimentaires, on va dire. Par exemple, elles vont financer via une logique de mécénat, en fait. Elles vont financer des associations, elles vont financer des expérimentations. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent se mettre en place. Là où nous, ce qu'on voit pas encore, c'est qu'il n'y a pas. Alors, il y a la question de la mutuelle d'Alsace, de l'expérimentation de l'État d'Alsace qui existe. Mais là, c'est bien, en fait, une association. Ce n'est pas une mutuelle qui s'est dit. Et si, pourquoi pas, on faisait une mutuelle? Donc, on voit que les mutuelles, elles ne sont pas encore dans cette réflexion-là, en fait, d'essayer de réfléchir à une cotisation et de réfléchir à une prestation aussi sur l'alimentation. Elles ne sont pas encore dans ce raisonnement-là, mais elles essaient, elles participent à l'alimentation, mais elles ne vont pas jusqu'à créer une mutuelle alimentaire.
Et comment les mutuelles, elles pourraient structurer des réseaux et renforcer leurs liens avec les adhérents, les associations, les territoires et être perçues comme un tiers de confiance dans la PSA?
Elles le font, donc nos entretiens semi-directifs montrent par exemple que les mutuelles, elles sont en fait, elles sont un débouché, si je peux dire, parce que via notamment leur livre 3, donc leur service de soins et d'accompagnement mutualiste, si on prend des EHPAD par exemple, en fait, il y a une restauration collective dans les EHPAD, et donc de ce fait, notamment parce qu'elles doivent respecter une loi qui s'appelle EGalim, elles sont en fait, c'est une demande collective qui peut être adressée à des producteurs locaux. Donc en fait, elles sont en train de elles peuvent, via notamment ce livre 3, structurer des réseaux locaux entre des producteurs, entre leurs adhérents, leurs patients, etc. Donc elles le font déjà pour certaines en fait. Ce qu'on voit aussi, c'est que les mutuelles, elles peuvent apporter une expertise, notamment pour les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'elles ont tout un réseau en lien avec les entreprises, notamment dans le cadre de leur contrat collectif, hein, elles ont tout un lien avec les organisations syndicales, enfin, les représentants des travailleurs et des employeurs et des salariés. Et donc, elles peuvent structurer aussi ce réseau-là et d'apporter voilà, ce réseau de liens avec l'entreprise qu'elles peuvent avoir via leur contrat collectif. Parce qu'en fait, il y a des expérimentations SSA qui essayent justement de développer un lien avec les entreprises pour, pourquoi pas, mettre en place une cotisation qui est à la fois libre pour les adhérents de la SSA, mais aussi qui pourrait être aussi en lien avec des entreprises qui peuvent financer une partie de la cotisation pour leurs salariés.
J'ai une dernière question, entre guillemets, puisqu'il y en a encore une autre derrière, mais selon le projet Pathé, comment les mutuelles pourraient-elles devenir des actrices clés de la protection sociale alimentaire et quels défis pourraient-elles rencontrer pour réussir à s'impliquer pleinement?
On voit sur le terrain de recherche, notamment si on parle de SSA, là, les mutuelles, les expérimentations, elles font quand même référence à les mutuelles, mais ce qu'étaient les mutuelles du 19e siècle, c'est-à-dire un tas d'expérimentations, pas des expérimentations, mais un tas de petites mutuelles qui se développaient sur la question de la santé. Si on revient encore avant, en fait, c'était pas que la question de la santé, mais voilà. Et donc, il y a ce référentiel, en fait, qui existe, de se dire, voilà, et si on pouvait essaimer en fait toutes ces expérimentations pour construire quelque chose de plus grand. Donc il y a voilà ce renvoi, cette image, enfin, cette représentation de ce qu'étaient les mutuelles au 19e siècle qui est quand même présente dans les expérimentations. Donc en ce sens, elles ont un rôle pour nous clé et majeur dans la SSA, en tout cas dans ce qui existe aujourd'hui des expérimentations de la SSA, parce qu'en fait, les expérimentations, elles renvoient beaucoup plus à des formes de mutuelles que de formes de sécurité sociale, parce que c'est une cotisation qui est libre, c'est une adhésion qui est volontaire. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui renvoient en fait, à ce qu'étaient les mutuelles au 19e siècle. Ensuite, elles peuvent aussi avoir une certaine expertise, les mutuelles, sur le lien entre prévention, alimentation, santé, chose qui peut manquer aussi dans les expérimentations SSA, et c'est ce qu'elles nous disent, hein, c'est que en fait, la mutualité a aussi ce rôle de, voilà, ce rôle aussi de prévention santé, en fait. Donc les mutuelles peuvent apporter cela. Et l'un des grands enjeux pour la mutualité, si on peut le dire comme ça, hein, quel défi pourrait avoir la mutualité, pourrait être rencontrée, c'est aussi en fait, de s'investir pleinement dans la question écologique, parce qu'aujourd'hui, à mon sens, les mutuelles ne le sont pas, enfin en tout cas pas assez, ça c'est sûr, et donc d'essayer de concilier en fait à la fois une réponse à des enjeux sociaux et une réponse à des enjeux écologiques, et en fait essayer de lier les deux, pourquoi pas par la question de l'alimentation, ça peut être par plein d'autres choses, hein, mais voilà, vraiment s'investir pleinement dans la question écologique en fait.
Merci à vous deux. Alors j'ai cette fois-ci la vraie dernière question. Un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir?
Alors, peut-être un podcast pour reboucler avec la question du genre et la question de l'alimentation. Pour aller plutôt du côté de la transformation écologique, il y a un podcast qui s'appelle Un podcast à soi, qui s'intéresse aux paysannes en lutte et du coup qui interroge les paysannes qui essayent d'être transformatrices et de transformer la reproduction. La reproduction domestique à partir notamment de l'agriculture, et c'est très intéressant de voir comment elle lie les deux et comment la question est pensée, comment les deux questions sont pensées ensemble. Voilà, il y a aussi, je crois, Cécile, tu voulais.
Ouais, le livre de Bénédicte Bonzi qui s'appelle La France qui a faim et qui est en fait une chercheuse en anthropologie sociale. Et en fait, le livre, même pour des non-chercheurs, en fait, il est passionnant parce qu'elle nous explique toute son enquête au sein des Restos du Cœur, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, toute son enquête, voilà, toutes les maraudes qu'elle a fait, etc. Et vraiment, elle nous emmène avec nous dans son enquête de chercheuse et il est vraiment passionnant.
Merci à vous, nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci Ilona, merci Cécile.
Merci beaucoup, Paul.
Merci.